On continue nos vœux pour 2016 et dans un premier temps, on passe un coup de téléphone. Bienvenue dans les Nouvelles Vagues.
Athènes, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui.
Je me permets juste de vous déranger pour une petite demande un peu particulière. Je voulais savoir si vous auriez une définition du reboot à me donner. Vous savez, comment est-ce qu'on définit ce que c'est que rebooter un ordinateur?
La traduction exacte, c'est redémarrage. Dès lors qu'on applique une modification au poste de travail et que le système nécessite un redémarrage pour que le système d'exploitation prenne en charge cette modification. Ça peut être une modification ponctuelle, un ajout d'une imprimante par exemple, ça nécessite un redémarrage du poste ou un redémarrage de session.
Aujourd'hui, on ne pourrait pas dire on arrête tout Internet et on recommence à zéro.
C'est plus complexe que ça, je pense. Parce que Internet, qu'est-ce que vous entendez par Internet? C'est assez vague. En fin de compte, toutes les données auxquelles on accède via un navigateur. Via un explorateur d'Internet. Remettre en question ce mode d'accès aux données, non, je pense que c'est absolument impossible.
Pour cette première semaine de janvier, les Nouvelles Vagues passent des coups de téléphone et formulent des vœux en bulles bleues sur les écrans, des vœux en 140 caractères soignés, des vœux en réseau, en rhizome, en messages codés mais bien nichés dans le réel. Aujourd'hui, on joue au jeu de reprendre tout l'Internet depuis le début et de voir alors ce qu'on lui souhaite de meilleur. Il est 16h. 14h Marie, il est 14h passé de 2 minutes. Vous écoutez France Culture, compteur à 0,16, à tous vos souhaits, bienvenue dans les Nouvelles Vagues. Fallait bien la faire une fois, autant que ce soit le 6 janvier. Considérant que les Nouvelles Vagues naissent de moments marquants, nous écoutons chaque jour en fin d'émission quelqu'un nous raconter un de ces moments marquants-là. Cette semaine, on retrouve le chef cuisinier Anthony Cointre et tout à l'heure, il nous raconte une nuit étoilée, les bras croisés derrière la tête, allongé dans un champ, un jour de baccalauréat réussi. Bref, vague d'adolescence et sentiment de travail accompli à écouter vers 14h45. Pour terminer complètement l'émission, on passera un coup de fil à thedrone.com pour parler musique. C'est le troisième moment d'une semaine en forme de vœux. Nous nous sommes réunis dans les derniers jours de décembre et nous avons formulé 5 vœux extensibles pour 5 émissions. En vrac, nous souhaitons à 2016 et à tout le monde un espace urbain partagé également et sans violence entre les hommes et les femmes, entre les jeunes et les vieux et j'en passe. Nous souhaitons de l'émancipation sous toutes les formes, un cinéma français qui surprenne, des intensités de liens, de livres, de scènes et pour aujourd'hui, un tout nouveau, tout beau Internet de l'avenir. C'est peut-être notre vœu le plus rêveur de la semaine, mais c'est aussi qu'Internet a inspiré et inspire nombre d'utopies. Aujourd'hui, on joue donc le jeu de tout reprendre à zéro et c'est un jeu qui peut s'avérer plus politique et subversif que prévu. Benjamin Zontag, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur de l'association La Quadrature du Net qui ne défend plus uniquement les libertés numériques, mais toutes les libertés. C'est ça? On arrête de se cacher derrière le petit doigt.
Exactement.
Bienvenue à vous, merci d'être là. Alexandre Lechenay, vous êtes journaliste à Libération, notamment pour le 6+, que je ne connaissais pas. C'est le portail data de Libération.
Exactement.
Bonjour et bienvenue, vous êtes aussi cofondateur du magazine Nichons-nous dans l'Internet. Alors, puisqu'on fait des vœux toute la semaine, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, cette tradition des vœux en janvier avant de parler d'Internet? Est-ce que vous en faites?
En tant que geek, je participe humainement comme je peux aux vœux, histoire d'avoir l'air peut-être d'être humain. C'est oui, non, on joue à ce jeu-là, oui, bien sûr. Puis c'est intéressant, c'est un moment aussi de faire le point et de se dire qu'après avoir fait la fête, on va proposer un peu quelque chose, essayer de trouver quelque chose de nouveau à démarrer, et des nouveaux paradigmes, des nouveaux concepts, et je sais pas, essayer de changer un peu le continu. Dans la quadrature, en tout cas, on va continuer à essayer de changer le monde, mais on va essayer de se trouver des nouvelles façons de le faire, peut-être.
Vous avez attendu quoi, le 2, le 3 janvier, pour commencer à faire des vœux?
Non, on a attendu le 1er à minuit, parce qu'en fait, on a fait une grosse fête avec plein d'entre nous, donc ça a été très vite.
Et vous, Alexandre Lechenay, qu'est-ce que ça vous inspire, cette tradition des vœux?
J'aime bien l'idée du reboot dont on parlait, de se dire on redémarre. Beaucoup de gens ont trouvé l'année 2015 assez catastrophique et je pense qu'il y avait un besoin de souffler. Et même si c'est prétexte, parce que c'est un jour tout à fait similaire à celui d'avant, il y a quand même l'idée de reboot, de dire bon ben on arrête tout, on recommence et puis on essaye de repartir sur de meilleures bases ou au moins de rafraîchir toutes les problématiques qu'ils peuvent avoir.
Et vous avez rafraîchi quoi, le 2, le 3 janvier, le 1er à minuit ?
Plutôt le 2 en fin de journée, je crois.
Vous étiez déjà frais. Et quel vœu vous avez formulé ?
Bon, rien de bien précis, je crois. C'était déjà de se lever le matin, c'était déjà un vœu assez difficile à tenir. Donc.
Mais vœu réalisé ?
Oui.
Pour cause, vous êtes là.
Mes chers compatriotes, ce soir, nous vivons ensemble un moment fort.
Essaye de me dire.
Kernel panique.
Attendez ! J'ai déjà eu à résoudre un cas similaire lors d'un exercice de simulation en 96. Il faut entrer dans l'architecture du programme, agir sur la fonctionnalité interne du système, réécrire le kernel, en modifiant le code source. J'agis directement sur l'interpréteur de commande qui enverra de nouvelles instructions au module. Je peux accéder aux chaînes depuis le terminal et rediriger l'exécution du programme.
Le temps que tu convertisses toutes tes données, toi et moi, on sera dans.
Can we get back on our...
Plus on se rapproche de l'an 2000, les plus on se rapproche de l'an 2000, les plans 2000, les plans 2000, les plans 2000, les plans 2000, les
ça charge, j'ai le freinage. Ça bug, le freinage. Ça bug. Ça marche pas. Ça marche pas.
It's midnight in Europe.
Et je pourrais faire péter le champagne, mais c'est plus exactement l'heure. 14h07 sur France Culture, c'est un extrait d'une création sonore signée Lucas Lelièvre, une captation sonore du spectacle Pour un prélude, Jade Herbulot et Julie Bertin. C'est un spectacle qui s'appuie sur à la fois les angoisses et la mythification autour du bug de l'an 2000. Vous le disiez, Alexandre Leschnet, qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans le reboot, dans la reprogrammation, dans le fait de tout reprendre à zéro. C'est aussi quelque chose qui a suggéré tout ce qui a été raconté autour du bug de l'an 2000. Est-ce que vous vous souvenez l'un et l'autre, vous peut-être un peu moins Alexandre Leschnet, mais vous Benjamin Zontag, ce qui se formulait à l'aune de l'an 2000 dans cette idée que tout allait pouvoir exploser, donc recommencer?
Pour être franc, les professionnels du métier, on savait très bien que c'était un bullshit total. Il faut être très clair. À part quelques vieux machins qu'il allait y avoir des problèmes qu'on allait gérer de toute façon les semaines avant ou les semaines après, on se doutait bien qu'il n'allait pas avoir de collapse total de notre société d'un coup. Quoi.
Et malgré cela, est-ce que ça a été quand même l'occasion de se projeter dans une fiction qui serait « Si tout s'arrête, on recommence » ?
Oui, c'était l'occasion, avec quelques collègues, ça a été l'occasion de discussion autour d'un café ou d'un bon repas le midi, à se dire, dans une tour à la Défense à l'époque, à se dire, et si on faisait, si on pouvait, on ferait ça comme ça.
Vous vous en souvenez un peu, parce que du coup, c'était il y a 15 ans ?
Oui, un petit peu, c'est un souvenir comme un autre, puis c'était l'époque où, enfin, pour moi, c'était l'époque où j'ai découvert à quel point la profession des milieux de l'informatique en général, pas que de l'internet, mais de l'informatique en général est remplie de gens qui savent pas vraiment comment ça marche à l'ordinateur, même si c'est leur métier. Et donc c'est à l'époque où j'ai découvert qu'on pouvait, sur un plateau de 40 informaticiens, être 3 ou 4 à savoir vraiment de quoi on parle et avoir envie de comprendre les enjeux, notamment politiques, de tout ce qu'il y avait derrière. Et ça a donné des discussions passionnantes. Donc c'était un peu une naissance à l'époque.
Vous diriez que ça s'articule pas nécessairement la connaissance technique et par exemple, je passais tout à l'heure un coup de fil au service de soutien technique ici à la Maison de la Radio pour demander une définition du reboot, du redémarrage, mais cette connaissance de la machine ne s'articule pas nécessairement avec une connaissance des enjeux politiques qu'il y a derrière.
Alors déjà, là, je vais être violent, hein, tant pis, mais la connaissance de la machine, on avait dans le tout faux pour votre coup de fil de tout à l'heure. Quand il disait qu'on redémarrait, c'est quand on installe les nouveaux trucs. Moi, j'ai un système qui s'appelle Linux, ça fait des années que j'ai pas besoin de le redémarrer à chaque fois que j'installe une imprimante ou un logiciel, vous voyez.
Alors c'est pas lui qui était dans le faux, c'est peut-être notre système d'exploitation
plus,
qui est dans le faux.
Et en plus,
c'est
mélanger Internet et le web, parce que vous lui demandez de rebooter Internet, et lui vous parle du navigateur web, alors que le web c'est qu'un petit morceau de l'Internet. Quand on fait du Skype, on fait pas du web. Donc, vous voyez déjà dans la technique, on n'est pas bien parti. Comprendre les enjeux politiques de l'Internet ou du numérique quand on est dans le métier, ça vient pas avec. C'est comme quand on parle des digitales naïves ou des digitales natives. Les digitales natives, c'est pareil, ça n'existe pas. Enfin, c'est des jeunes qui ont certes eu peut-être un usage du numérique plus tôt que nous ou que vous, mais c'est pas pour autant qu'ils vont être meilleurs, ou notamment sur les enjeux politiques ou éthiques. Et on le constate tous les jours dans la quadrature, on est plusieurs à faire régulièrement des conférences ou des petits ateliers dans des écoles d'ingénieurs. Et un truc que je fais souvent, qui fait souvent beaucoup rire, c'est de dire à la fin aux élèves, voilà, vous êtes dans une profession au chômage négatif, si vous avez un boulot qui le matin vous fait que vous n'avez pas envie d'y aller, n'y allez pas, puis barrez-vous. vous allez de toute, vous avez cette chance, prenez-la. Enfin, et s'il n'y a pas d'éthique, s'il n'y a pas de morale dans ce que vous faites, bah, trouvez autre chose.
Vous allez trouver autre chose. Alors, qu'est-ce qu'ils vous
répondent? Alors, profs font jaw drop, comme on dit. Enfin, ils ont la mâchoire qui tombe et ils nous regardent avec des yeux ronds. Puis après, ils comprennent. C'est ce qu'on veut essayer, c'est de donner à ces enfants et ces jeunes qui sont en école d'ingé des idées de que bah, leur métier doit avoir une certaine forme d'éthique, un peu comme il y a eu la fin de l'innocence à la Seconde Guerre avec les scientifiques qui ont découvert qu'ils pouvaient créer la bombe, la bombe A. Ben, il y a un devoir pour moi aujourd'hui des informaticiens d'avoir une compréhension des enjeux politiques de leur métier, pour refuser de faire un certain nombre de choses, typiquement. Enfin. Un peu comme les médecins.
Assez symboliquement, le coup de fil passé au service donc de maintenance se terminait par « ça n'est pas possible ». Rebooter Internet, clairement. Réinventer Internet, clairement. Ça n'est pas possible. Comme si l'emballement technique et l'évidence technique de l'état actuel des choses faisait qu'on ne pouvait pas arrêter les choses pour les repenser. Alexandre Leschnet, finalement, nichons-nous, dit « imprimons Internet avant que ça disparaisse ». C'est une façon de laisser la possibilité de à la fois l'imprimer, mais aussi de le réinventer cet Internet.
Oui, il y a l'idée déjà de se moquer de tous les gens qu'on peut rencontrer régulièrement, peut-être de moins en moins maintenant, mais qui disent « Internet, ça va pas marcher, ça marchera pas, c'est quelque chose qui va passer, c'est une mode, c'est comme le Minitel, d'ailleurs il n'y a plus de Minitel, du coup Internet sera la même chose ». Alors qu'on pense que concrètement, ça s'est quand même inscrit dans tous les aspects de notre vie, tous les aspects de, quoi, oui, de notre vie, de notre métier, des métiers de chacun. Et du coup, c'est un peu pour se moquer de ça, et en même temps pour... Je pense qu'on a une impression aussi de fuite en avant et effectivement, on se dit que ça va pas s'arrêter et qu'on a besoin, nous, de le figer. Et c'est notamment pour ça qu'on imprime une revue sur du papier, un peu en pied de nez, en disant on va tout mettre de côté et on va l'archiver sur un support qui est beaucoup plus pratique à archiver que du numérique. Parce que, par ailleurs, sur le numérique, il y a beaucoup de problèmes d'archives, il y a plein de sites qui ont disparu, il y a des choses qu'on ne connaît plus. Et donc, dans un sens, ça s'arrête parce que l'Internet qu'on connaissait dans les années 90, à part la page de Space Jam qui restait figée en 97, il y a peu de sites qui ressemblent à ce qu'on connaissait et il y a peu d'entreprises encore qui sont mises en œuvre pour sauvegarder l'Internet d'avant. Donc d'un côté, on est dans un reboot permanent du numérique et d'Internet.
Les nouvelles vagues ont tweeté. Si on reprend Internet depuis le début, vous faites quel vœu pour lui?
Marika Polasek a tweeté un espace créatif.
NKL4 a tweeté qu'il reste un réseau décentralisé, la base quoi.
Bayard B a tweeté survivre malgré nos politiques et les géants commerciaux.
Laurent Chemla a répondu pour survivre, il survivra. Mais pourra-t-on encore l'appeler Internet? J'ai comme un doute.
Vartagan a renchéri. On en montrera un autre, en parallèle, en IPv6.
Un gr a tweeté. Je lui souhaite de rester un espace de liberté décentralisé qui échappe à la surveillance.
Ffet a tweeté. Du routage en oignon dès la conception.
Timothy Duquen a tweeté. Qu'il soit conçu comme un outil respectueux de ses utilisateurs et pour contribuer à un monde meilleur.
Joser a tweeté. On aurait dit qu'on ferait des sites qui puissent vivre sans pub. Qu'on arrêterait de faire d'Internet un lieu en tant que tel. Qu'Internet ne servirait plus à nous découper en tout petits morceaux d'informations qui dressent un mauvais portrait et prétendent dire qui on est et ce qu'on veut, tout ça. Ça, on aurait dit qu'on arrêtait. On aurait dit que la culture ne serait pas bradée ni diluée, mais offerte à sa juste valeur. C'en serait fini du règne despotique des chatons, des renards et des pandarous, même si bon. On aurait dit que l'information serait traitée, réfléchie et diffusée avec le temps qu'il faut sans répondre à l'avidité. On aurait dit que tout irait super vite pour tout le monde, mais qu'on serait pas obligé, en fait. Internet entièrement gratuit comme l'air. On n'opérait pas en petits bouts de personnes non plus. On aurait dit que les oreilles arrêteraient de pousser sur les murs d'Internet. On aurait dit qu'on était tous réfléchis et responsables, mais bon là, je digresse.
Les nouvelles vagues ont tweeté. Merci.
coït électronique, coït plein écran. Tu mets ton corps en ligne, tu rafles le pognon. Étreinte mercantile d'une âme en stock option.
www.com. Et juste avant cela, quelques tweets suite à notre appel sur Twitter de faire des vœux pour l'internet, si jamais on le reprenait depuis le début. Est-ce qu'il y a un tweet qui a attiré votre attention, un vœu pour un internet repris à zéro, Benjamin Zontag?
Oui, moi c'est celui respectueux de ses utilisateurs et pour contribuer à un monde meilleur, parce qu'il n'est pas technique finalement, et que on s'est rendu compte à la Quadrature qu'internet c'est maintenant complètement intégré à nos vies de tous les jours, et que si on réfléchit la politique de l'internet, on réfléchit en fait la politique et la société qu'on souhaite en général. Et donc si on doit rebooter internet, finalement c'est peut-être aussi nos institutions qu'on aimerait rebooter des fois.
C'est-à-dire que ce vœu-là, donc, qui était tweeté par Timothy Duquesne, c'était une façon de dire qu'il n'y a qu'un monde et qu'internet est une partie de ce monde-là, mais n'est pas un monde séparé. Et donc formuler dans ces mots, c'est... Dans ces mots, c'est qu'il soit conçu comme un outil en effet respectueux de ses utilisateurs pour contribuer à un monde meilleur. On pourrait presque parler d'une définition de la démocratie, en fait.
Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. La démocratie n'étant qu'un des points de la politique qui nous permettrait d'essayer de faire ce monde meilleur qu'on appelle de nos voeux. Parce qu'on voit que, pas typiquement en France, on est dans un état démocratique, mais où le détail de... Nous, on est beaucoup de geeks ou de hackers très versés dans la science à la Quadrature. Et quand on analyse la façon dont fonctionne notre démocratie, on voit qu'elle est très mathématiquement imparfaite. C'est pas qu'on voudrait qu'elle soit mathématiquement parfaite, mais on voudrait qu'elle soit un petit peu meilleure. Donc on est beaucoup, par exemple, à être pour la proportionnelle, ou à appeler à des institutions qui soient moins présidentielles, où on ait moins de pouvoir centralisé entre les mains d'un ou deux hommes. Parce que ça permet plus de discussions, ça oblige à plus de discussions, notamment avec les citoyens. Donc voilà, c'est quelque chose vers lequel on va de plus en plus en dehors de l'internet, parce que ce monde qu'on aimait bien, où on pouvait faire tout un tas de choses super intéressantes, innovantes, rigolotes, qui était l'internet qu'on avait avant, nous, qu'on a toujours d'ailleurs, est en train de se faire manger par d'un côté des États qui surveillent en masse leurs citoyens, ou dont les services sont complètement incontrôlés aujourd'hui. Et travaillent entre eux d'ailleurs, plus du tout avec leurs états, mais entre eux, des services de renseignement, et des grandes boîtes type Facebook, Amazon, Twitter, Microsoft, Apple, et même en France, les Blablacar ou les autres startups du même genre, dont faut rappeler, le but c'est de faire du pognon. Enfin, le but c'est pas du tout de rendre service à leurs utilisateurs. Il y a un truc que j'aime bien pour décrire la Silicon Valley, c'est ce que disait Evgeny Morozov, ils nous résolvent des problèmes qu'on savait pas qu'on avait avant, en fait. Donc voilà, tout ça, ça nous oblige à vraiment une réflexion de fond, et la démocratie n'en est qu'un des ponts. Je pense.
Alexandre Lechnais, qu'il y a un tweet d'un des auditeurs ou des auditeurs de Twitter qui a attiré votre attention. Vous les avez déjà oubliés?
Oui.
C'est
oui,
mal.
Oui, je suis désolé. Mais tous étaient très intéressants, bien sûr. Et ce que j'aime bien dans l'idée de démocratie, c'est aussi qu'effectivement, toutes les lois récentes qu'on a pu avoir récemment n'ont pas restreint les libertés, dans le sens où on a toujours des moyens technologiques d'empêcher les écoutes, d'empêcher d'être surveillé, d'empêcher que nos mails soient lus et des choses comme ça, mais c'est des moyens qui deviennent de plus en plus compliqués à utiliser. Et du coup, l'accès démocratique à Internet, il est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'on a un Internet à deux vitesses entre ceux qui savent le faire, ceux qui savent utiliser tous ces outils, et puis les gens normaux comme ma grand-mère qui vont sur Internet pour jouer au Scrabble ou juste pour regarder une recette.
Quand vous parlez de tous ces outils, pour être plus précis, ce serait quoi ?
Ah, ça peut être, c'est pas moi le spécialiste, donc je vais peut-être dire des bêtises, mais ça peut être l'utilisation d'un VPN pour masquer sa connexion, l'utilisation de Tor, qui est un système d'ordinateur, de serveur qui répète ma demande plein de fois et qui du coup à la fin on sait plus que c'est moi qui l'ai faite, et donc ça permet aussi de brouiller un peu les pistes. Ça peut être aussi la restriction d'utilisation de certains outils. Comme Facebook, par exemple, où les gens sont surpris. Encore hier, les collègues étaient surpris que Facebook fasse ce qu'ils veulent sur sa plateforme et ne veulent pas montrer des seins. C'est dans les règles de Facebook, donc quand on s'inscrit, on accepte ces règles. Et après, on peut surprendre et on peut essayer de changer les choses, ou alors on peut juste dire peut-être que c'est le système en lui-même qui est mauvais et on peut quitter Facebook.
Donc si on reprend ce principe-là qui est un jeu, mais qui est un jeu qui peut nous permettre de formuler des choses, si on se dit 1er janvier 2016, tout tombe à plat, Internet ne marche plus et on a, nous, autour de la table, une petite heure pour imaginer un Internet de l'avenir, on fait quoi ou qu'est-ce qu'on ne fait pas, par exemple ? Qu'est-ce qu'on ne fait pas qu'on a fait il y a 20 ans ?
Alors, il y a une chose dont je suis certain, c'est qu'on ne fait pas, on ne laisse pas faire une centralisation aussi forte des moyens de communication qui est un peu le problème qu'on a dans l'industrie ou dans l'économie en général, indépendamment de l'Internet, vous voyez. Quand on a des grands groupes, ce qu'on appelle transnationales, moi j'appelle ça comme ça, qui ont des chiffres d'affaires supérieurs à la plupart des PIB des États du monde, bah c'est un problème. Ces boîtes sont complètement incontrôlables, elles financent les aides, tout ça, c'est totalement indépendant des États, et ça vit sa vie, et ça vit au-dessus des États. Bah, dans l'Internet, on a le même problème. Aujourd'hui, on a Facebook ou Apple qui ont des chiffres d'affaires qui sont délirants, et qui manipulent les volumes de données de citoyens de manière totalement délirante et totalement incontrôlable. Et incontrôlé, et la CNIL a beau essayer, hors les lois, voilà, c'est hors les États la plupart du temps, même pour l'État américain d'ailleurs. Donc ce qu'on pourrait appeler de nos voeux, c'est d'avoir un Internet qui soit un peu plus décentralisé, où on aurait des petites plateformes type Diaspora, des choses comme ça, où on peut faire des réseaux sociaux avec quelques amis, et puis ça communique avec d'autres plateformes à côté qui ont d'autres formes de réseaux sociaux, une espèce de diversité biologique. On le sait très bien en biologie, quand il n'y a plus qu'un seul... Qu'un seul état, bah c'est ce qu'on appelle l'état de mort.
Alors comment expliquer que finalement ce qu'on pourrait appeler de nos voeux ou faire différemment aujourd'hui en 2016, si tout était remis à plat, ça n'a pas été fait il y a 20 ans? Comment expliquer qu'on s'est jeté, ou que l'Internet, pour reprendre ce concept qui est fourre-tout, s'est jeté sur un gros groupe qui centralisait et devenait de plus en plus gros, donc de plus en plus puissant?
Je pense que c'est un peu... L'être humain se laisse un peu avoir à ça, c'est-à-dire qu'on... Moi, je vais pas. Par exemple, je suis militant de l'Internet, mais je vais pas me poser la question de où je m'approvisionne en eau, vous voyez. Alors que ça tombe, je voudrais ne pas aller avec un grand groupe comme Veolia. Bah, si je pouvais, j'irais peut-être pas chez Veolia, mais pas. Ne le sachant pas, je vais pas le faire. Et donc, on est finalement dans chaque milieu. On constate qu'il y a toujours 3 ou 4% des gens qui utilisent un milieu donné, qui vont se soucier de la façon dont c'est produit, de la façon dont c'est consommé, de la façon dont c'est distribué. Et tous les autres, ils consomment, vous voyez. Et donc, finalement, l'Internet ne fait pas exception. On s'est rendu compte qu'il y avait un grand nombre de citoyens et d'internautes qui étaient là à dire, bah, on va au plus simple, on va au plus gros. Il y a l'effet de réseau qui joue beaucoup sur Internet. Donc, il y a un autre truc qu'on appellerait de nos voeux, c'est les protocoles ouverts. Si on avait imposé d'une façon ou d'une autre de dire, Internet, ça a gagné face à des réseaux propriétaires, parce que c'était des protocoles que tout le monde pouvait mettre en œuvre gracieusement.
C'est-à-dire? Internet a gagné.
Avant Internet, il y avait d'autres réseaux, comme ATM par exemple, ou les réseaux NEC, qui nécessitaient d'avoir des licences sur l'utilisation de certains protocoles, qu'on payait auprès de boîtes. Donc si on avait voulu faire un Internet à l'époque avec ça, on n'aurait pas pu, il aurait fallu payer des millions et des millions à je ne sais quelle boîte. Internet, c'est des ingénieurs qui se sont mis autour d'une table pour dire on va faire des protocoles que tout le monde pourra mettre en œuvre gratuitement. Ça a donné IP, le protocole Internet, comme son nom l'indique. Et d'autres protocoles TCP, les protocoles de mail, le web, tout ça, c'est né dans les mêmes normes ouvertes et librement utilisables. Si on avait imposé à ce que ce soit ainsi, de plus en plus, C'est un peu une façon où le politique aurait pu mettre son grain de sel dans le truc dès le début pour essayer de favoriser les peuples plutôt que les grandes structures d'entreprise. On aurait pu avoir, par exemple, on n'aurait pas eu Skype. On aurait eu Skype, mais avec un protocole ouvert, donc il y aurait eu d'autres logiciels qui auraient fait le protocole Skype. Or, aujourd'hui, on n'en a qu'un, donc c'est devenu, depuis, ça a été racheté par Microsoft, qui a dit, bah, maintenant, c'est plus un protocole décentralisé.
Et ça se ferme.
C'est refermé, et en plus, on va pouvoir faire des écoutes en masse dessus. Donc on a perdu le beurre, on a perdu l'argent du beurre et on a perdu le sourire de la crémière, donc c'est terrible. Enfin, on se retrouve avec un truc qui a profité de l'effet de masse et puis maintenant bah, c'est fini, il n'y a plus rien à voir, circuler. Donc voilà, si on avait plus eu des protocoles ouverts, ça aurait été mieux aussi. Et il y a une dernière chose qu'on appelle aussi, c'est ce qu'on appelle le chiffrement, donc le fait de crypter nos données de bout en bout quand on discute avec nos correspondants, pour éviter que des acteurs intermédiaires puissent écouter. Ça aurait eu deux effets, si on avait fait un Internet comme ça. Alors, on est en train d'essayer de le faire avec ce que disait Alexandre tout à l'heure, avec le Tor qui nous permet de faire ça, ou OTR, ou des systèmes de chat qui permettent de chatter de manière cryptée de bout en bout. C'est-à-dire sans que personne puisse l'écouter, ça a deux avantages. Un, on peut pas, y a pas d'exploitation des données par des intermédiaires techniques, parce que bah, ils peuvent pas savoir ce que vous dites. Et deux, il n'y a pas de surveillance de masse des populations, qui est un vrai problème. C'est que aujourd'hui, on surveille des masses de populations plutôt que des quelques individus isolés. Ça a donné les attentats en France. On aimerait bien que le gouvernement se prononce un peu là-dessus, d'ailleurs.
Tout à l'heure, quand vous disiez, Alexandre Lechnec, une des solutions, c'était, par exemple, de renoncer à l'utilisation de Facebook. Évidemment, quand on entend Benjamin Zontag, on se dit que c'est comme de ne pas aller au supermarché, c'est comme, en fait, de faire des choix de vie sociétaux. Qu'est-ce que vous disiez, qu'est-ce que vous proposeriez à cet Internet nouveau qu'on élabore aujourd'hui à 14h27 sur France Culture ? Pour de faux, comme ça vous détend.
Moi, j'ai joué à un jeu avant de venir, j'ai regardé tout ce qui était mort. J'ai tapé dans Google « est mort » et alors depuis quelques années, il y a eu le web qui est mort parce qu'il y avait le mobile et parce que le mobile remplaçait le web. Il y a Internet qui est mort parce que on va être trop nombreux pour l'utiliser. Il y a eu aussi le mobile qui est mort parce que les notifications arrivaient et que du coup, on n'avait plus besoin. Alors, c'était les apps. Et du coup, c'est assez intéressant de voir que tout est mort et tout finalement survit. Parce que l'Internet qui a été effectivement construit sur des protocoles ouverts, donc des recettes que tout le monde connaît et peut utiliser, il arrive pour l'instant à survivre à tout ça. Et effectivement, on a des problèmes, mais il y a toujours aussi des moyens pour le réutiliser. Moi, je trouve que le côté on va tout rebooter, c'est aussi que c'est un peu déprimant parce que il y a quand même des choses qui sont faites. On n'est pas dans un état si catastrophique que ça, et il faut plutôt se dire qu'est-ce qu'on va modifier dans ce qu'on a en ce moment, sans forcément tout effacer, mais en se disant bah qu'est-ce qui a marché. Alors
qu'est-ce que vous garderiez alors? Parce qu'en effet, c'est une chose intéressante que de dire, si l'on rebootait, moi en fait je ne reprendrais pas tout depuis le début, il y a des choses que je n'effacerais pas. Qu'est-ce que vous n'effaceriez pas dans la façon dont Internet s'est bâti et s'est inventé, Alexandre Lechnay?
Moi je sais qu'il y a quelque chose qu'Internet amène et qui avant n'existait pas et qu'il faudrait garder quoi qu'il arrive, c'est le fait d'arriver à faire se rassembler des gens qui ont les mêmes intérêts, qui ne se connaissent pas forcément. Et chaque jour, j'ai une démonstration de plus de gens qui sont contents de trouver en ligne, par exemple, je lisais sur Twitter hier une dentiste qui pensait qu'elle était la seule à râler contre la faible représentation globalement des femmes. Et elle s'est rendue compte, en allant sur Twitter régulièrement, qu'il y avait d'autres femmes qui pensaient comme elle, qu'il y en avait d'autres qui osaient parler et qui du coup se sentaient plus fortes et savaient qu'elle était soutenue par d'autres gens derrière. Et il y a tout un tas de communautés qui se créent et qui se créent en dehors de ce qu'on appelle bêtement le monde réel, mais qui du coup se créent en ligne et ensuite font des choses plus ou moins intéressantes.
Donc c'est ce potentiel ou cette puissance de fédération en fait qui existe depuis les débuts d'Internet et qui persiste et dont en effet vous souhaiteriez qu'elle se poursuive si on était en mesure de réinventer Internet aujourd'hui.
Sans aucun doute.
Le terme qui est mis au centre du débat, c'est l'idée, alors un peu, le terme est étrange, de littératie numérique. Hein, c'est-à-dire que ce qui est au cœur de l'affaire, c'est d'obtenir une sorte de culture du numérique qui serait une sorte de savoir-faire, d'agilité, qui serait cette littératie du numérique à promouvoir et qui permettrait aussi de réduire des fractures, des inégalités ou des usages naïf, spontané ou éventuellement problématique, dangereux, etc., qui sont en jeu. Alors, c'est un grand débat, évidemment, parce que la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut mettre dans cette éducation au numérique, quels sont les traits qui seraient centraux. Moi, je crois qu'il faut être attentif au fait qu'on doit développer une culture réflexive et critique de ces outils si on veut être capable de les user de façon critique. Je pense notamment aux algorithmes de classement du web qui sont partout présents et vis-à-vis desquels, évidemment, quand on interroge les Français aujourd'hui, ils ne savent pas du tout comment Google a classé tel lien en première page ou en deuxième page ou en troisième page. Alors, on ne connaît pas tous les secrets de l'algorithme, mais on peut éduquer sur le principe de l'algorithme. Les gens pensent que c'est parce que le lien a eu le plus d'audience, ce qui n'est pas du tout le cas. Un lien qui est bien classé est globalement un lien qui a reçu beaucoup d'autres liens des autres sites du web. Donc, éduquer au fonctionnement des algorithmes, c'est aussi permettre de les vérifier, de les critiquer et d'avoir une sorte de vigilance. Donc, avoir un rapport critique au nouveau format de la mesure numérique, ça fait partie de cette littératie numérique, à mon avis.
La voix de Dominique Cardon au micro de Philippe Meyer dans Esprit Public, le 25 mai 2014 sur France Culture. Évidemment, quand on pense vœux, quand on pense formulation de vœux, avenir, arrive très très rapidement la question de l'éducation. Est-ce que vous diriez que c'est la voûte, la clé de voûte pour que les vœux formulés ici ou ailleurs soient réalisables, Benjamin Zontag?
Mais clairement, enfin, de très très loin, on le sait tous, l'éducation, c'est les jeunes, c'est l'avenir de notre monde toujours. Donc on est très, enfin, la culture, on essaie d'aller très vers les jeunes et ceux qui sont notre monde à venir.
De quelle manière vous y allez?
Avec difficulté, on a eu par exemple quelques contacts avec des communautés de gamers, notamment autour d'Adopi et puis autour de Dacta. Il y a eu pas mal d'échanges à l'époque aussi.
Donc des joueurs de jeux vidéo.
Des joueurs de jeux vidéo. Désolé de l'anglicisme. Et aujourd'hui avec des écoles d'ingénieurs, des BTS, des trucs comme ça, où on vient parler de choses et d'autres, notamment d'éthique de l'internet et de politique de l'internet.
Vous êtes accueilli comment par les élèves et par les enseignants?
En général, ils nous connaissent déjà à la Quadrature, donc c'est presque joué. Ils veulent entendre des choses qu'ils connaissent, dont les 3 ou 4% de leurs élèves qui sont geeks les connaissent déjà. Donc ils veulent essayer d'étendre un peu la connaissance de l'éthique et d'une vision politique de l'internet. Donc voilà, le côté éducatif est très important, et notamment si on voit l'avenir de l'internet tel qu'il est aujourd'hui, si on oublie si on se rend compte qu'il a effectivement pas rebooté, ce qu'on voit venir et qui nous inquiète le plus, c'est ce dont m'a fait souvenir M. Cardon dans l'audio qu'on vient d'entendre, c'est qu'il y a l'algorithmique qui déboule, qui est un autre facteur important dans l'Internet, c'est les bulles dans lesquelles on nous met.
Alors on va faire processus éducationnel, on va dire ce qu'est l'algorithmique qui débarque et qui vous inquiète.
Ouais, c'est ça. Donc typiquement, si vous, Marie, faites une recherche sur Internet, d'une phrase donnée, vous n'allez pas avoir le même résultat que moi. Pourquoi? Parce que Google a décidé que moi je faisais des recherches plutôt sur ça, donc j'allais avoir ces résultats-là, et vous plus sur autre chose, donc vous allez avoir d'autres résultats.
Résultat, Internet n'est pas neutre.
Il n'est plus que pas neutre, et c'est pas Internet, c'est Google qui est pas neutre. Et toutes les sociétés qui mettent en œuvre ces algorithmes, y compris pour nous afficher de la pub, y compris pour Facebook nous montrer ou ne pas nous montrer certains éléments de postés par nos amis, ce qui est quand même terrible, on ne voit pas tout ce que nos amis nous postent. Ça, faut le savoir. Il y a une espèce de ils nous montrent un morceau de l'Internet. Un morceau de nos relations. C'est terrifiant parce qu'on ne sait pas quels sont les critères. On n'a aucune idée de comment on peut influencer ça, à part en utilisant Tor, comme disait Alexandre tout à l'heure, et voilà, on n'est plus soi-même, on est un anonyme sur le web, donc on peut essayer d'avoir autre chose, une autre bulle. Mais cet enfermement des internautes dans des bulles individuelles, c'est terrible parce que ça nous façonne aussi. On en parlait avec des philosophes il n'y a pas 30 ans avec Philippe de la Quadrature. Ça façonne notre mode de pensée. C'est-à-dire que si je comprends comment fonctionne Google, je commence à influencer mes modes de recherche pour avoir les résultats que je veux. Mais c'est une espèce c'est réflexif, mais en vrai, ils ont un pouvoir sur nos têtes qui est terrifiant.
Donc, parce que ça veut dire que l'utilisateur aura toujours un coup de retard, entre guillemets, sur le gros moteur de recherche, quand bien même il essaierait de le déjouer?
Bah oui. C'est un des trucs qui nous a vraiment inquiétés avec les révélations Snowden, c'est qu'on savait que c'était possible, la surveillance de masse. Là, on voit que c'est pareil avec l'algorithmique qui déboule et qui met en équation, en quelque sorte, tous les comportements humains. Vous voyez la SNCF qui essayait de faire des caméras de surveillance qui vont détecter les comportements suspects ou déviants, je sais pas quoi.
Finalement, ça fait longtemps qu'en ligne, ce détectage a lieu.
Cette détection, elle est partout. Enfin, on n'arrête pas d'avoir... si vous regardez, vous allez sur le site de Libération du Monde ou du New York Times, vous allez avoir une quinzaine ou une trentaine de trackers. C'est des petits morceaux de code qui vont regarder quelle page vous allez voir, combien de temps vous y restez. Même sur votre liseuse, si c'est une Kindle, elle va espionner toutes les pages où vous êtes resté sur chacun des livres que vous lisez. C'est terrifiant tout ça. Il y a 30 ans, ça serait pas passé une milliseconde. Ça aurait fait des scandales, ça aurait fait des manifs dans la rue. Quand il y a eu les premières caméras dans les métros à la RATP, il y a eu des manifs contre l'installation de la vidéosurveillance dans les RATP. Aujourd'hui, on en veut plus. On veut plus de vidéobienveillance même.
Oui, les gens, finalement, sont contents aussi de créer une petite ligne dans la base de données. Quand on prend une carte chez Carrefour, c'est exactement, ou chez Auchan, ou chez Intermarché, c'est exactement le même fonctionnement que le moteur de recherche Google. Ils vont utiliser toutes les informations qu'ils récupèrent sur moi, sur l'heure à laquelle j'achète, ce que j'achète, et ils vont ensuite l'utiliser pour me resservir un mail à un bon moment, ou se dire bah il a l'air d'être plutôt à faire ses courses vers 23h, donc si je lui envoie un SMS à 21h, il saura qu'il y a des promos, donc il va peut-être venir chez moi plutôt que chez le voisin. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas seulement la navigation en ligne qui est touchée par l'algorithmique, ce que les gens essaient aussi de dire big data, parce que ça fait mieux, et puis c'est que c'est tous nos aspects de notre vie qui sont connectés maintenant à des serveurs et qui, quand je prends une carte...
D'ailleurs, vous avez fait un article là-dessus où vous montrez comment est-ce que l'ensemble de vos trajets, de vos consommations sont notés, notifiés quelque part et tenus en mémoire.
Oui, que ce soit pour mon déplacement Vélib ou pour tous mes achats. Et ensuite, c'est des bases de données qui sont mêlées les unes aux autres. Et qui permettent d'en savoir beaucoup plus sur moi que moi je ne sais ou que mes amis le savent. Facebook, il a les moyens, en analysant les pages que je like ou les gens avec qui je suis ami, de savoir, sans même que moi je le décrive, quelle est ma sexualité ou quelles sont mes opinions politiques. Et donc Facebook, on ne sait pas s'ils utilisent ces informations. Après, c'est aussi des choses que les publicitaires qui me ciblent pourront utiliser par intuition, en le devinant.
Donc on va se rendre compte à 15h que Internet n'a pas été rebooté et que les choses vont continuer telles qu'elles sont, pas forcément pour du mal, vous le disiez tout à l'heure Alexandre Lechner, avec toutes les bonnes choses. Cependant, puisqu'on tient là le levier éducationnel et que dans l'éducation on peut mettre beaucoup de choses, sur quoi on se cible? Alors vous avez dit tout à l'heure, Benjamin Sontag, attention aux algorithmes, il faut en gros développer un esprit critique sur les outils. Sur quoi d'autre? Vous êtes tous les deux intégrés, rattachés à différents médias. Je sais pas, quelle éducation de masse ou de moindre masse on propose lorsqu'on veut un Internet meilleur?
Sur les questions des données, j'ai parlé devant les bibliothèques de Paris il y a quelques mois, et il y avait un jeu intéressant, c'était de prendre son portefeuille et de regarder toutes les cartes qu'on avait et de regarder sur Internet tous les comptes qu'on s'était créés avec un nom et un mot de passe, et à chaque fois de s'interroger, est-ce que ça me rapporte plus que ça ne me coûte? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir 20% de réduction sur les tomates à la caisse dans mon supermarché en échange de toutes mes données personnelles de courses qui sont... Et donc là-dessus, c'est des choses... Le problème que j'ai avec ce genre de discours, c'est que ça devient tout de suite sinistre et assez paranoïaque de dire, bah voilà, ils peuvent faire tout ça, est-ce que vraiment vous avez envie que Carrefour sache que... Alors il y a des gens qui disent, mais je m'en fiche, c'est pas grave s'ils savent que j'achète des yaourts.
Puis il y a d'autres gens, il y a les 97% qui ne sont pas les 3% dont vous parliez tout à l'heure, Benjamin Sontag, non?
Oui, mais enfin, après on peut avoir on a réussi à exploser ACTA qui était un traité commercial négocié en Europe, qui a été annulé pas voté par le Parlement européen, parce qu'il y a trop de citoyens qui ont été au courant. On peut faire ça sur d'autres sujets. Je veux dire, aujourd'hui, le climat commence à inquiéter vraiment les citoyens du monde. Et il y a des gens qui commencent à réagir vraiment, qui commencent à arrêter d'aller acheter n'importe quoi, des tomates, où certes, ils ont 20%, mais qui sont des long life sans goût, c'est de l'eau avec du rouge autour. Bah, si on préfère aller peut-être consommer moins, mais acheter des meilleures tomates avec des belles couleurs et des belles saveurs dans un petit marché du coin, on peut faire la même chose sur Internet, en fait. On peut utiliser des petits réseaux sociaux, des petites applications, des trucs de quartier, des entreprises, faire marcher des entreprises locales. Et donc ça marche, et c'est les choses qu'on essaie de disséminer et de répandre avec notamment des amis du logiciel libre et toute cette communauté là. Et en face, ce qu'on voit qu'on a, c'est les petits commerçants, ils ont les Auchan, les Carrefour et compagnie. Et nous, l'Internet, on a Microsoft qui signe un deal de je sais pas combien de millions avec l'Éducation nationale. Et là, ouais, on a plutôt envie de pleurer là.
De toute façon, ça va être... ils vont faire une autoroute de des autoroutes de l'information, ouais. Qui vont vraiment...
Il y en a déjà pas mal, hein, des informations.
Oui, mais là...
Même sur les autoroutes.
Oui, mais là,
Le prix du carburant, ils indiquent les restaurants, les tests de gonflage, les aires de repos.
Oui, hein. Ou même l'altitude et les températures. Ah, oui. Mais là, ils vont tisser une toile d'araignée sur tout le pays qui vont aider à. Ben et ça
vous,
va être.
Même
vraiment...
une semaine, vous partez une semaine, il y en a.
Quand vous en louez des informations
des araignées.
Oui,
vous partez une semaine de chez vous, il y en a, ils s'en retrouvent tous
les jours. Oui, mais non, je vous parle pas. Ah, non, si. Oui, mais je vous parle pas de ça.
Si vous n'avez
non.
Si vous en avez.
Oui, mais je vous dis que non. Je vous dis que vous aurez des ils vont faire même des ils vont faire des autoroutes de l'information. Vous en aurez même. Ça passera par chez vous.
Ah,
ça
non.
Passera par tout le monde.
Ah non, alors là, je suis.
De quoi non.
Je suis vers le CADAS.
Quoi?
Alors, je sais bien, c'est pas constructible.
Mais non,
ils m'ont promis que c'était pas constructible. Mais... J'en veux pas des autoroutes.
Mais c'est pas. C'est pas un simple câble qui va passer sous deux rangs de poireaux qui vont.
Oui.
Bon alors.
Qu'ils disent?
Quoi qu'ils disent?
Qu'ils disent? Moi, j'en veux pas des autoroutes.
Mais vous aurez même des internets et tout.
1996, Les Deschiens avec ce sketch Les autoroutes de l'information. Alors, à la fois, c'est un sketch qu'on a beaucoup entendu, mais en même temps, il fait beaucoup rire et en même temps, il nous permet de parler de ce que nous évoquions juste à l'instant avec vous deux, Benjamin Zontag et Alexandre Lechenay, c'est que il faudrait pouvoir dire non, je n'en veux pas, comme on l'entend dans la voix d'Olivier Saladin. Non, je n'en veux pas, non, je ne veux pas que ça passe par là, ou non, je ne veux pas que ça se passe comme ça. On a vu récemment, avec notamment par exemple la campagne d'amendement à la loi numérique proposée par la Quadrature du Net, que ce non je n'en veux pas ou oui j'en voudrais autrement n'est pas tant écouté que cela par la classe politique française.
Ben, ils n'ont pas écouté ça. Si vous regardez, c'était un théâtre de la démocratie. Là. Pas du tout. Aucune des propositions les plus sérieuses des citoyens sur ce projet de loi n'ont été retenues. Avec de bons arguments, vous savez, il y a toujours les ayants droit qui vont en dessous de main dire ah oui, non, on peut vraiment pas faire ça parce que vous comprenez, ça va un peu bloquer notre business, la SACEM, tout ça, la musique, le film, le disque, et ça c'est un des exemples. Ou tout simplement parce qu'ils ont peur de véritables changements. Enfin, on l'a vu avec la réaction politique depuis les attentats du 13 novembre, qui a été de toujours nous mettre plus de peur, plus de sécuritaire, et pas du tout à réfléchir, à prendre du recul, et essayer de réfléchir un petit peu sur la société dans laquelle on vit, et pourquoi on ne trouve pas de moyens de lutter contre le terrorisme de manière un peu humaine et un peu efficace. De la même façon, le projet de loi numérique, on n'en attend à peu près rien aujourd'hui. Il a été vidé de sa substance, il n'est plus du tout dit... d'envie, à part le bullshit habituel des startups, qui, je vous le rappelle, vise à faire du blé, hein. C'est pas du tout de rendre service aux citoyens ou à rendre la vie meilleure. Donc, faut rappeler à chaque fois, parce que c'est, voilà, toujours 100 fois sur l'ouvrage revenir.
Quand vous dites qu'il faut rappeler à chaque fois, ça va aussi dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure, Alexandre Lechenay, c'est-à-dire donner l'idée, ou ne serait-ce que la connaissance. Vous citiez votre grand-mère qui va sur Internet pour jouer au Scrabble, qui, elle, ne sait pas qu'il y a des petits logiciels qui peuvent même tout simplement empêcher la publicité invasive, certaines, qu'il y a des routages en oignon, qu'il y a Tor qui existe, qu'il y a d'autres réseaux Internet. En même temps, je vois sur Twitter à l'instant quelqu'un qui dit, mais enfin, il faut être raisonnable, il n'y a que les geeks pour avoir leur propre serveur. Quand on nous répond ça, qu'est-ce que vous répondez?
Oh, c'est vrai, il y a encore beaucoup de travail à faire pour les ingénieurs ou les gens qui travaillent là-dedans, de faire des outils qui soient plus simples d'utilisation. Après, si je me, pour l'instant, ma grand-mère, je l'ai laissée tranquille, mais si je pense qu'il faut mettre un tracker de publicité, je ne vais pas lui expliquer comment ça marche, je vais juste l'installer en lui disant que c'est mieux pour elle, de la même manière que je lui achète un extincteur et que je lui mets dans sa voiture en disant « ce sera mieux comme ça pour toi », sans forcément lui expliquer comment marche un extincteur, ou elle saura le moment venu comment
l'utiliser. Et ça, une échelle plus grande, ça veut dire quoi alors? Parce qu'il n'y a pas d'Alexandre Lechenay pour aller dans tous les appartements de toutes les grand-mères qui jouent au Scrabble sur Internet.
Il y a des Alexandre Lechenay partout dans le monde. C'est quand je parle de décentralisation de l'Internet, je préfère utiliser le terme de fédération. Parce qu'en gros, Google avec Gmail, ils centralisent le mail. Décentraliser le mail, ça voudrait dire on a chacun une petite boîte chez soi, genre un cube internet qui va héberger son mail. C'est irréaliste aujourd'hui. Moi, ce qu'on invite de nos voeux aujourd'hui, c'est à minima une fédération. C'est-à-dire que chacun connaît un geek ou deux geeks qui peut, ou une petite assoce de quartier, où on connaît tous quelqu'un qui est capable de faire ça. Et ben, faisons-le avec lui. Demandons-lui de le faire pour nous. Et donc, si on a tous autour de soi des gens capables de nous aider à mieux comprendre un milieu donné, allons les voir et demandons-leur des conseils.
Et de la même façon. Ça, c'est pas un vœu pieux. C'est-à-dire que ça, vous considérez qu'à une échelle qui est demain ou vraiment après-demain, février 2016, c'est un réseau, un rhizome, une fédération qui est vraiment potentiellement, qui peut être mise en place tout de suite.
Ah, ça existe déjà. on le constate. Et même, je vais faire de la même chose. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut que j'ai comme électricité ou comme eau, mais je vais demander aux copains qui sont versés dans ces domaines-là pour me dire, mais qu'est-ce que je dois choisir? Et ils vont m'aider.
En même temps, vous disiez tout à l'heure que l'appétit ou le caractère dément des gros groupes qui font qu'on va tous vers eux est plus fort que cela. Alors, tout à l'heure, vous aviez moins d'espoir que maintenant. C'est parce qu'il est 14h45.
Parce qu'on essaie de finir sur une note positive.
Alexandre Lechner, vous diriez que ce réseau-là, il est opérationnel? Plein d'Alexandre Lechner, oui. Chez les grands-mères et les autres.
Ou même plus, parce que j'en connais beaucoup moins que Benjamin Sontag, donc je suis content aussi de voir lui ou d'autres gens pour qu'ils me conseillent aussi sur des outils. Et je pense que ça naît l'activation de ces réseaux, aussi de la prise de conscience, et qu'effectivement, il faut à la fois, à chaque fois, se demander qu'est-ce que j'utilise et pourquoi j'utilise. Il y a une étude qui disait que une majorité de jeunes ne savaient pas que Facebook et Internet, que Facebook était sur Internet, et pour eux c'était pas la même chose. Et du coup, essayer de leur faire prendre conscience que c'est la même chose, quoi, que l'un est une partie de l'autre, même si Facebook essaye de laisser penser que tout Internet est dans Facebook. De prendre conscience, ça nous permet aussi de se dire, comment je vais régler ça? Alors, sachant que moi, je parle à la radio et pourtant, j'ai un FAI qui est un fournisseur d'accès à Internet qui n'est sûrement pas très respectueux de grand chose. J'utilise pas forcément des messageries chiffrées. Le logiciel libre, c'est bien, mais je préfère quand même avoir un iPhone dans ma poche. Donc,
on parle.
C'est aussi du confort qu'il faut refuser ou abandonner de temps en temps. Et du coup, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que on est prêt à laisser son iPhone pour quelque chose qui va mieux marcher, mais qui va moins bien marcher, à mon sens, mais qui sera un peu plus sain du point de vue technologique.
Alors très rapidement, quand vous dites que ça passe par l'éveil des consciences, alors ça passe par jouer au jeu de réinventer Internet par une heure dans une radio publique écoutée par des dizaines voire des centaines de milliers de personnes, mais ça passe par quoi d'autre? Ça passe par vous travaillez à Libération, faire de l'éducation par voie de presse, aller dans les écoles. Aujourd'hui, les leviers actifs pour les sensibilisations, est-ce qu'ils le sont tant actifs?
Ils le sont. Ça, c'est des choses qui mettent toujours beaucoup de temps à infuser. Je voyais, à utiliser Linux il y a 10-15 ans, on était 0,5% de la population mondiale. Aujourd'hui, dans les stats des serveurs web, je vois, on est entre 5 et 7% à être sous Linux. Et pas juste avec un Android, vraiment des postes de travail ou des PC sous Linux. C'est une vraie prise de conscience. Je connais plein de gens autour de moi qui sont pas du tout geeks et qui sont sous Ubuntu, sous Linux, et qui sont très contents. Et je dis ce qu'on vient avec Alexandre, c'est pas, on perd pas en confort, au contraire, on gagne pas mal de choses. On a moins de pubs, on n'attend pas après son informatique parce qu'elle est pas là pour nous taper dessus, mais elle est là vraiment pour nous rendre service. Donc on gagne tout un tas de choses. On en perd certaines et on en gagne tellement d'autres, notamment en confort et en espèce de tranquillité d'esprit, que je peux vous garantir que le jeu en vaut la chandelle. Déjà aujourd'hui.
Ça infuse, déjà.
Tout à fait.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux.
Et on remarquera combien Benjamin Sontag a tenu à terminer sur une note positive, et ça fait plaisir. 14h48 sur France Culture, à cette heure-ci chaque jour, nous suspendons nos conversations pour donner la parole à quelqu'un qui nous raconte un moment marquant cette semaine. C'est avec le chef Anthony Cointre que nous avons rendez-vous. Il posera ses valises et ses bons produits du 14 janvier à mars prochain au restaurant Les Nôtes, qui est des Célestins à Paris. On l'avait déjà rencontré là-bas en décembre et il nous raconte aujourd'hui une nuit étoilée pleine de promesses et de sentiments de travail accompli. On l'écoute.
J'ai eu une vie scolaire un peu mouvementée. Entre le collège et le lycée, j'ai dû faire 8 collèges et lycées, pour terminer même hors académie, à Alençon, dans l'Orne. Et donc, le bac, ça a été un truc incroyable, non, mais... une première année, je ne l'ai pas eu, j'ai redoublé, et la deuxième année... J'étais juste au rattrapage. J'avais juste 8 et je sais pas quoi. Il fallait que, avec les coefficients et tout de l'époque, alors je sais pas comment ça se passe maintenant. Je sais pas si c'est un souvenir que les moins de 30 ans peuvent encore connaître, mais fallait que j'ai 40 points, quoi. Et c'était, un truc, énorme. Et puis je le passe et je l'ai. Super content de l'avoir. Et après, le soir, je me suis retrouvé dans la Sarthe avec des copains, je me rappelle plus trop qui. Encore pas très loin de Ruyer, C'était à Château du Loir. Et donc, ben voilà, c'était le mois de juin. Et je sais pas, l'impression d'avoir réussi quelque chose, déjà, je sais pas, c'était peut-être la première fois, enfin bon, une espèce de satisfaction. Et on était dans un champ. Je sais pas si on avait bu ou si on avait soif ou si on avait fumé ou si on allait fumer. Et j'étais comme ça, les bras en croix, à regarder le ciel. Il faisait doux. Et j'avais une impression de liberté, de bien-être, comme j'avais jamais ressenti la satisfaction du devoir bien fait. Ce truc un peu le challenge, j'aime bien moi les challenges en fait. Que voilà, le truc extrême, quoi, je veux dire, le truc. Parce qu'il y avait des copains, ils avaient juste, je sais pas, 10 points à rattraper, ils l'ont pas eu. Et là, Cointre, machin et tout, il a 42, il l'a eu. Et je sais pas, ouais, ça m'a complètement empli d'aise. Pourquoi je parle de cette émotion-là ? Parce que c'était la première fois que je ressentais ça. Une certaine liberté, un bien-être comme ça, une certaine reconnaissance, parce que voilà, il y avait aussi, là, j'avais réussi quelque chose. Bon, comme j'avais un peu des déboires pas mal à l'école, bon voilà. Mais donc voilà, il y avait ce truc-là où, là, un peu socialement, il y avait une espèce de reconnaissance. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a touché. Bon, ça n'a rien donné, hein. J'ai arrêté mes études là. J'ai eu un bac E quand même, scientifique et technique. C'était à l'époque le bac S, donc tout le côté scientifique, mais en plus tout le côté technique, d'où maintenant mon côté très bricoleur. Contrairement à ce que les gens pensent, je suis extrêmement bricoleur. Et voilà, c'était, je sais pas, une tranquillité, le truc à la nature. Alors c'est étonnant parce que, en fait, moi, non, je n'aime que vivre dans la ville. Mais là, voilà, je sais pas, cette petite brise, le truc un peu idyllique. En fait, je raconte que des conneries idylliques. Et éthylique, mais c'est la première fois de se sentir libre, libre de je sais pas quoi, parce que ça peut donner grand chose, en tout cas par la suite, mais voilà, il y avait une certaine, voilà, bien-être, on est resté, voilà, dans le champ, je sais pas quoi ce qu'on a fait, mais ça c'était vraiment une sensation de détente.
Oh,
encore par le groupe Ous de Raquette et ils sont à quatre mains sur la console pour que ça tienne au moins jusqu'à 15h sur France Culture. Ils sont forts. Benjamin Zontag et Alexandre Lechner, on entendait le chef Anthony Cointre parler de cette nuit étoilée qui faisait suite à l'obtention de son bac et de celui de ses copains. Vous vous en souvenez, vous, de la nuit du bac? Ni l'un ni l'autre?
Non, pas du tout.
Bon, bah, c'est très bien, c'est une bonne nouvelle, non?
Ouais.
C'est que c'est loin ou c'est que c'était bien?
C'est juste loin.
C'est juste loin. 14h55, on va passer un coup de téléphone aujourd'hui à thedrone-com. Bonjour David Païs.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors voilà, en fin d'émission, on passe un petit coup de fil à des gens qu'on aime bien. The Drone, ce sont des gens qu'on aime bien. Vous avez une tradition que vous partagez avec certains blogs musicaux qui est de faire une shit list de l'année qui vient de s'écouler. En quoi cela consiste?
Ça consiste un peu, dans notre cas, un peu un défouloir. On passe quand même le reste de l'année à dire beaucoup de bien, de beaucoup de musique qu'on aime et que peu de gens écoutent. Finalement, c'est un peu la ligne directrice du site. C'est un peu de s'intéresser à des artistes qui défrichent, qui font des choses un peu pas comme tout le monde. Et donc, on les soigne beaucoup, ces artistes-là. Et c'est vrai que une fois dans l'année, un peu en réponse à toutes ces tops de fin d'année, de Noël, on avait un peu envie de casser quelques idoles, de faire tomber un peu comme ça quelques têtes.
Alors c'est juste est-ce que c'est juste méchant ou est-ce que c'est justifié?
Ah non, c'est justifié avec beaucoup de mauvaise foi, j'ai envie de dire. C'est il y a un peu cet aspect, on est un peu dans une veine de musique expérimentale qui touche souvent à l'électronique, de choses un peu compliquées. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on navigue comme ça dans ce milieu où le public souvent peut être aussi un peu insupportable, un peu snob et un peu sûr de ses goûts. Et on aime bien s'amuser avec le fait de faire tomber comme ça des artistes qui semblent intouchables. Tout le monde est un peu trop sûr de ses goûts dans ces milieux-là. Donc il y a un peu ce côté, on touche à des artistes que tout le monde pense qu'on va défendre en fait. Et pour un peu leur dire que non, on peut aussi avoir des choix. On n'est pas juste dans quelque chose de chez The Drone de toujours de défendre tout ce qui est compliqué, de tout ce qui est expérimental, de tout ce qui paraît par rapport au grand public novateur. C'est ce qui nous énerve beaucoup. C'est ce qui nous agace en fait. C'est à partir du moment où ça a une étiquette un petit peu expérimentale, c'est censé être bien.
Donc c'est l'anti-bien-pensance de la critique musicale. Mais alors ça vous empêche pas, dès janvier 2016, de revenir du côté des coups de cœur. Est-ce qu'en quelques secondes, vous nous donneriez envie d'écouter quelque chose?
Ah bah je peux conseiller surtout d'écouter celui qu'on a mis en numéro 1, qui est un artiste qui s'appelle One Not Tricks Point Never, qui est très dur à prononcer et très dur à épeler. Donc je conseille quand même aux gens de bien le googliser avant, qui a fait un album magnifique qui s'appelle Garden of Delight, qui un peu vient invoquer, on va dire, 20 ans de musique électronique condensée dans des espèces de souvenirs mélangés qui appellent presque la musique de jeux vidéo, les débuts de la rave, les débuts du cut-up musical en électronique, sans que ce soit indigeste, surtout.
Sans que ce soit indigeste, mais on va s'arrêter là parce que j'avais donné quelques secondes et le reste est à lire sur the-drone.com. Merci beaucoup David Païs, l'horloge tourne à la radio. Comme ailleurs, on mettra le lien vers le site internet thedrone.com, mais aussi vers la Quadrature du Net, mais aussi vers Nichons-nous dans l'internet, mais aussi vers l'IB6, comment ça s'appelle ?
6+.
6+, le site de Libération sur les données.
Et les nouveaux formats.
Et les nouveaux formats. Merci infiniment à tous les deux d'avoir tenté de réinventer Internet. Nous l'avons fait. Hop, c'est la fin des Nouvelles Vagues. Pour réécouter les Nouvelles Vagues ou celles d'avant, rendez-vous sur franceculture.fr. On pourra aussi s'abonner au podcast. C'est l'occasion de n'en louper aucune. Vous pouvez nous écrire via le formulaire de contact en bas à droite sur la page des Nouvelles Vagues, mais aussi via Twitter ou Facebook. Merci à Romain Debecq de Lièvre, Alice Ramon et Inès Duperron qui pensent et préparent cette émission avec moi, une émission réalisée par Somanina, avec aux manettes aujourd'hui Jean-Guilain Neige, au droit d'auteur Raphaël Bézikian.